Bonsoir tout le monde. Et compte tenu de l'époque de notre année, une très bonne année d'abord à vous toutes et tous, hein, en espérant que les événements que notre pays a traversés et traverse probablement encore soient quand même signe de paix, hein, pour vous et tous les vôtres. Alors merci beaucoup d'être présents pour ce moment qui consiste donc pour le bâtonnier Thierry Vickers à vous présenter un ouvrage qui, j'ose le dire, est déjà un ouvrage de référence, en tout cas pour la profession d'avocat. Et je consultais encore hier des envois par courriel de la France entière qui recommandent la lecture, l'appréhension, la connaissance, l'étude de ce qui devient vraiment un document qui sera enseigné, n'en doutons pas, à la fois dans les universités, dans les écoles d'avocats, nous l'espérons au-delà. Alors, deux mots sur notre bâtonnier Thierry Vickers, puisqu'il est ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux. Thierry, tu es né avocat le 10 janvier 1978, en réalité ta date de prestation de serment. Tu as été bâtonnier de Bordeaux de 2000 à 2001, puis président de la conférence des bâtonniers, de mémoire 2004-2005, puis président du Conseil national des barreaux, qui est donc l'instance représentative de la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et au-delà, avec un mandat extrêmement brillant et qui a marqué notre profession. Tu es aujourd'hui président de la délégation française au sein du Conseil des barreaux européens. Donc tu assures cette représentation française dans cette instance européenne. Tout cela, tu l'as mené de front avec une vie personnelle également très riche. J'indique que le bâtonnier Thierry Vickers est un éminent marathonien, ce qui, moi, me laisse tout à fait admirative. Tintinophile ô combien, et ce qui explique peut-être d'ailleurs ce goût pour la nouveauté, l'innovation et également cette curiosité et cette volonté de connaître et aujourd'hui de transmettre et de faire connaître. Au-delà, ce qui est absolument intéressant dans la démarche du bâtonnier Vickers, c'est que cette connaissance, cette analyse, non seulement il nous la livre, mais il ne nous la livre pas pour faire un exposé ce soir devant vous, devant ses confrères, lorsqu'il est désormais régulièrement invité dans les barreaux, mais pour qu'ensemble, nous puissions étudier ces propositions qui ne sont pas, j'en suis certaine, gravées dans le marbre, que nous les analysions, que nous les disséquions, que nous les fassions nôtres, que nous nous les approprions et que nous puissions les transmettre. Cet ouvrage s'intitule « La grande transformation des avocats ». Alors, je poserai une première question, monsieur le bâtonnier. Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Racontez-nous.
Merci, madame la bâtonnière. Et je joins, bien sûr, à mon tour, mes voeux à ceux que vous avez exprimés. Et je remercie donc cette assemblée de venir nous écouter, venir écouter un auteur, ce qui est toujours un immense plaisir pour celui qui a eu l'audace de prendre la plume et de rédiger. Alors, vous me demandez pourquoi avoir rédiger donc ce petit ouvrage sur ma profession, sur notre profession, la profession d'avocat. Je crois que c'est au départ partie d'une ou de plusieurs frustrations. La première frustration, c'est précisément, vous disiez avec beaucoup de générosité, c'est presque entre guillemets un classique, c'est qu'en réalité, c'est surtout un ouvrage qui, dans le paysage français, ne se faisait pas. Alors que partout ailleurs, on trouve des ouvrages de ce type, et je pense notamment à tous les ouvrages sur la profession d'avocat qu'on peut trouver dans le monde anglo-saxon. La profession d'avocat intéresse beaucoup plus à l'étranger, et en tout cas notamment les universitaires, les auteurs, intéressent beaucoup plus à l'étranger qu'elle n'intéresse en France. Et je me suis notamment inspiré d'un ouvrage qui n'est pas sorti il y a très longtemps aux États-Unis, qui s'appelle The Vanishing American Lawyer, et qui de la même façon essaie de faire un tour des problèmes que rencontre la profession d'avocat aux États-Unis. Donc, la première raison, c'est effectivement la constatation de ce manque. Et puis, Il y a peut-être également le fait que, ayant présidé à une assemblée d'avocats, j'ai été amené à beaucoup écouter les avocats, puisque vous connaissez cette assemblée, vous en avez été membre et vous avez été membre du bureau du Conseil national des barreaux. Réunir 80 et maintenant 82 avocats dans la même salle, c'est la garantie de débats qui prennent un certain temps. Et en ce qui concerne ceux du Conseil national des barreaux, chaque fois qu'ils se réunissent, nous sommes partis pour une douzaine d'heures de débats. Et le rôle du président est essentiellement d'organiser les débats et d'écouter. C'était à mon tour de parler. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de prendre la plume pour bavarder, comme les avocats ont la triste habitude de le faire. Donc, double frustration également, celle de n'avoir pas pu parler autant que je le voulais quand j'étais président du Conseil national des barreaux. Je me suis rattrapé dans cet ouvrage.
Alors, vous avez employé le terme de frustration. Est-ce que cette frustration ne serait pas accentuée après la fin de votre mandat en ayant observé ce qui s'est produit pendant ce mandat qui vient de s'achever, ces trois années qui viennent de s'achever, avec, je l'indique, pour les personnes non initiées, des mouvements relativement importants au sein de notre organisation, et alors même que notre société est l'objet de mutations importantes auxquelles la profession d'avocat doit également coller.
Je suis un ancien président et vous connaissez la formule qui concerne les présidents en général. Quelle est-elle déjà ? Mon prédécesseur est un incapable et mon successeur un intrigant, à moins que ça ne soit l'inverse. Donc j'espère ne pas avoir été guidé par ce genre de réflexion lorsque j'ai rédigé cet ouvrage. Non, je voulais vraiment essayer de proposer à mes confrères, d'abord à mes confrères, mais c'est vrai au-delà, je l'espère, mais d'abord à eux, un ouvrage dans lequel on allait pouvoir trouver un certain nombre de réflexions sur l'avenir de cette profession, alors que le plus souvent, ce que les avocats peuvent trouver, ce sont des livres de souvenirs ou des livres sur la justice, des livres de réflexion, etc., mais pas un ouvrage essayant, une fois encore, d'examiner sous tous ses angles le devenir du groupe professionnel que nous constituons. Et les difficultés qu'il est susceptible de rencontrer, en tout cas qu'il devra affronter.
Alors, parlez-nous de cette grande transformation. Comment la voyez-vous ? Quelles sont les perspectives ?
Alors, j'ai essayé d'abord d'identifier un certain nombre de facteurs qui vont avoir une incidence sur la profession d'avocat. Le premier de ces facteurs, et tout le monde le connaît puisqu'il est au cœur de l'actualité aujourd'hui, et en tout cas de l'actualité parlementaire, c'est ce mouvement de déréglementation qui est un mouvement qui est né il y a maintenant plus d'un quart de siècle, dont on peut tracer l'origine probablement d'abord aux États-Unis dans les années 70, et qui a gagné au fur et à mesure, qui a touché des pays, essentiellement des pays anglo-saxons, l'Australie par exemple, où la profession d'avocat à partir du début des années 2000 a fait l'objet d'une très profonde déréglementation. C'est par exemple en Australie qu'on a vu apparaître le premier cabinet coté en bourse, cabinet d'avocat coté en bourse. C'est évidemment quelque chose de tout à fait inouï. Et puis, bien sûr, le Royaume-Uni avec, à partir de 2007, le Legal Act, Legal Service Act, qui crée ce que les Anglais appellent les Alternative Business Structures, qui sont des cabinets d'avocats qui peuvent être à la fois la propriété de non-avocats et dirigés par des non-avocats. Donc, cette déréglementation qui, en réalité, en Europe, est à rattacher à la directive service de 2006. Donc, vous savez que c'est la fameuse directive Bolkestein. En 2006, toutes les activités de service, ou pratiquement toutes les activités de service, à l'exception de très rares, comme le notariat, sont concernées par la directive service. C'est-à-dire que pour la Commission européenne, il n'y a finalement pas tellement de différence entre le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus et les professions réglementées, ou en tout cas une profession comme la profession d'avocat. Et c'est cette logique que l'on retrouve dans la loi Macron, bien sûr, où de la même façon, vous allez trouver des dispositions censées libérer la croissance et l'activité et qui concernent des tas de professions vues sous l'angle et exclusivement sous l'angle du marché. Donc ça, c'est certainement le premier mouvement qui va avoir une incidence sur notre profession et qui va même l'avoir très très vite. Une fois encore, les débats parlementaires vont commencer dans quelques semaines. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement qui surgit, en tout cas qui se révèle après la crise de 2008, mais probablement était-il déjà, bien sûr, en action, ou se manifestait déjà, mais on ne l'avait pas encore réalisé. C'est le basculement ou le rééquilibrage de la relation entre l'avocat et son client. L'avocat est un professionnel du droit qui a toujours conçu son activité comme étant en quelque sorte en surplomb par rapport à son client. Les économistes vous parlent de la théorie de l'asymétrie d'information. D'un côté, un professionnel qui sait, et de l'autre côté, un particulier ou en tout cas un non-professionnel qui ne sait pas et qui est entre les mains du professionnel. Il doit lui faire confiance parce qu'il n'est pas capable de résoudre tout seul son problème. Eh bien, là aussi, il y a un rééquilibrage de cette relation parce que des phénomènes que nous connaissons, et c'est le troisième élément fort, et je vais y venir dans un instant, mais des phénomènes que nous connaissons comme l'explosion de l'Internet, le fait que la connaissance est désormais infiniment partagée et que toute personne est en mesure assez facilement de vérifier la qualité de la prestation ou du conseil qui lui est donné, ou même si elle n'est pas en mesure de le faire, elle peut avoir le sentiment qu'elle peut le faire. Donc un rééquilibrage de cette relation, rééquilibrage qui se manifeste non seulement chez les particuliers, mais également chez les entreprises, avec la remise en cause de quelque chose de tout à fait magique que les avocats américains avaient inventé en 1958, la tarification horaire. Cette aberration sur laquelle la profession d'avocat a vécu pendant quelques dizaines d'années et qui veut que moins vous êtes compétent, moins vous êtes performant, plus vous pouvez facturer votre client, ce qui évidemment est quelque chose d'assez singulier, puisque quand vous êtes bon, spécialisé, rapide, vous facturez moins que quand vous êtes mauvais, incapable et que vous avez besoin de vérifier toutes sortes de choses. Donc c'est le deuxième phénomène. La troisième grande tendance, c'est bien sûr l'apparition des technologies de l'information. Les technologies de l'information permettent de voir surgir ce qui a d'abord existé aux États-Unis et ce qui commence à exister chez nous, c'est-à-dire des start-up du droit, c'est-à-dire des sociétés, des entreprises qui ne sont pas des entreprises à la tête desquelles on trouve des juristes, on ne trouve à leur tête des personnes qui sortent de sociétés, enfin d'écoles d'informatique ou d'écoles de commerce et qui se précipitent pour entrer sur le marché du droit et qui prétendent à leur tour fournir des prestations juridiques. Et bien sûr, en France, il y a une société particulièrement significative ou en tout cas emblématique de ce mouvement, c'est la société Demander Justice qui, en 2 ans, en proposant des prestations qui sont incontestablement des prestations juridiques, a pu rassembler ou en tout cas répondre aux besoins de pratiquement 80 ou 90 000 clients. Donc voilà les trois grands mouvements qui me paraissent provoquer cette grande transformation des avocats.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui justifie probablement la place de l'avocat dans une société de surcroît démocratique, c'est bien sûr la nécessité d'avoir des professionnels qui maîtrisent cet art, cette science ou cette technique, mais c'est surtout ce qui va permettre de répondre à celles et ceux que nous appelons nous, nos clients. Hein, qui se rapprochent parfois d'ailleurs des patients, des médecins, tellement l'attente peut être profonde. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous préciser l'analyse que vous faites, qui est tout à fait nouvelle, en tout cas véritablement novatrice, de l'approche que l'avocat doit avoir de celle ou celui que l'on appelle le client, aujourd'hui, au XXIe siècle. Est-ce que cette approche est la même que celle qu'il pouvait avoir du temps de Cicéron, ou est-ce que les choses se sont transformées ?
Alors, en réalité, un des éléments très forts qu'on a vu apparaître au cours des dernières années et qui n'était pas jusqu'à présent, qui n'avait pas été enregistré, c'est l'insatisfaction qui existe sur le marché du droit par rapport aux prestations qui sont fournies par les professionnels, que sont notamment les avocats. Pendant très très longtemps, les seuls indicateurs de l'état du marché du droit, c'était les indicateurs traditionnels que nous connaissons, statistiques, combien d'affaires sont jugées par le système judiciaire, combien de temps ces affaires mettent à être jugées. Nous avions donc un arsenal qui nous permettait de compter un certain nombre d'activités. Et puis, on a vu apparaître au cours des dernières années des enquêtes beaucoup plus qualitatives qui se posaient la question de savoir, mais finalement, que font les particuliers et les entreprises lorsqu'elles sont confrontées à un problème juridique ? Est-ce qu'elles vont voir un avocat ? Est-ce qu'elles vont voir un juriste ? Que font-elles ? Ou comment est traité leur problème ? Et ces enquêtes qui vont être réalisées d'abord, bien sûr, aux États-Unis, mais pas seulement. Vous avez notamment une enquête hollandaise, le Hiltrand Report, qui porte sur un panel d'à peu près une vingtaine de pays très différents, c'est-à-dire des pays avancés comme la Hollande ou le Royaume-Uni, mais également des pays du tiers-monde, les Indes, des pays d'Afrique. Et le constat est à peu près partout le même. Notre profession, qui est une profession qui existe pratiquement partout dans le monde. Le modèle que nous avons inventé a été adopté absolument partout, et en tout cas partout où il existe plus ou moins un État démocratique. Ce modèle repose sur l'idée qu'il n'y a pas de meilleure façon de permettre l'accès au droit que d'imaginer un professionnel qui est spécialisé, qui a été formé bien sûr à la matière juridique et qui va rechercher avec son client la solution à un problème particulier dans le cadre d'une prestation qui est une prestation extraordinairement individualisée, extraordinairement personnalisée, à travers bien sûr un contact direct et à travers donc cette personnalisation de la solution. Dans le langage des théoriciens de l'innovation, le cabinet d'avocats, comme le cabinet du médecin d'ailleurs, est une solution shop, c'est-à-dire un magasin à solutions. Et personne n'avait jamais discuté du fait qu'effectivement, cette façon de faire était la meilleure et qu'elle assurait véritablement l'accès du plus grand nombre au droit et à la justice. Et toutes ces enquêtes vont malheureusement révéler une situation totalement différente, une situation dans laquelle une partie non négligeable, pour ne pas dire majoritaire, des habitants des pays développés ou non développés n'ont pas, à travers ce modèle, d'accès au droit et à la justice. Enquête américaine, donc, avec des chiffres qui sont absolument terrifiants. Enquête, par exemple, dans l'État de New York, où on découvre que plus de 80% des personnes qui se présentent devant les juridictions dans des matières qui sont des matières très significatives, c'est-à-dire droit de la famille, droit du crédit, droit de l'habitation, locataire, etc. Plus de 80% des personnes se présentent sans avocat ou font défaut parce qu'elles n'ont pas les moyens de recourir au service d'un avocat. Et nous avons, dans le cadre du rapport, certes médiocre, mais bon, c'est celui que nous avons de l'IGF qui est la base de réflexion de la loi Macron et qui n'est d'ailleurs que le rapport d'évaluation prévu par les articles 17 et 24 de la directive service de 2006, nous avons 7 éléments, à peu près un Français sur deux n'est jamais rentré dans un cabinet d'avocat. Et donc, soit vous considérez qu'un Français sur deux n'a jamais eu le moindre problème juridique dans sa vie et nous sommes une exception mondiale, car en réalité les statistiques prévoient ou en tout cas établissent que toute personne normalement constituée a tous les 4 ou 5 ans un problème juridique sérieux méritant le recours soit à la justice, soit à un avocat. Et si vous faites un retour sur ce que vous avez vécu, la plupart d'entre vous, vous apercevrez que cette statistique, ça ne veut pas dire que vous êtes allé chez un avocat, mais cette statistique est tout à fait exacte. Et donc, nous sommes en présence d'une inadéquation massive entre la forme que prend dans les sociétés modernes l'accès au droit et à la justice et les besoins tels qu'ils s'expriment. Et donc, nous avons toute une frange de la population qui, aujourd'hui, n'accède pas ou qui n'accédait pas jusqu'à aujourd'hui au droit et à la justice à travers les professions juridiques en général, puisque je parle des avocats, mais évidemment, dans un pays comme nous, nous sommes le champion d'Europe, voire du monde, du nombre des professions juridiques. Avec 8 professions juridiques ou judiciaires, il n'y a pas de pays dans lequel il n'y en ait davantage qu'en France.
Que pensez-vous de l'idée d'une grande profession du droit en France ?
C'est dans la dernière partie d'ouvrage, je m'interroge sur ce que peut être la stratégie de la profession d'avocat. Et il se trouve que l'idée d'une grande profession du droit a été l'alpha et l'oméga de la stratégie de la profession d'avocat depuis pratiquement les années 60. C'est probablement un petit peu court par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le problème auquel nous sommes confrontés, le problème que la profession d'avocat doit résoudre si elle veut survivre, probablement, et en tout cas si elle veut accomplir ce qu'est son devoir social, c'est celui d'assurer l'accès au droit de la totalité d'une population, de nos concitoyens, et pas de construire une grande profession. Ça peut faire partie des priorités, mais ça n'est pas la solution pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Ça n'est pas parce que les professions juridiques sont éclatées en France qu'il y a ce problème. Et d'ailleurs, ce problème se pose ailleurs. Je vous donnais tout à l'heure les statistiques, par exemple, de l'État de New York. C'est un problème qui est un problème général du modèle de la solution shop.
Puisque vous êtes président de la délégation française au Conseil des barreaux européens, vous êtes donc dans le cœur du processus qui est invoqué, dénoncé par nombre d'entre nous, à tort ou à raison, et qu'on appelle la déréglementation. Les avocats français, que vous connaissez donc bien, redoutent et dénoncent la tendance qu'il y aurait à vouloir marchandiser le droit. Quelle est votre analyse sur cet aspect-là ?
Alors,
rassurez-nous.
Alors, en réalité, le droit a très longtemps été hors du marché parce que la profession d'avocat, que ce soit en France ou ailleurs, et les services juridiques n'étaient pas considérés par personne comme des marchandises. Et certainement, probablement moins en France que partout ailleurs. Il n'est pas étonnant que ce soit un peuple de marchands qui ait imaginé que le droit puisse être une marchandise, et c'est donc effectivement d'abord les Anglo-Saxons qui se sont posés cette question, en disant après tout pourquoi est-ce que on ne pourrait pas délivrer des services juridiques comme des marchandises et pas sans les rattacher nécessairement à des notions comme l'état de droit, la démocratie, la défense des libertés fondamentales. Il n'empêche que il faut également se souvenir que la profession d'avocat avait, à travers un argumentaire qui est un argumentaire qui mérite qu'on s'y arrête certainement, qui est celui du fait qu'on ne peut pas précisément ramener le droit à une simple marchandise, les avocats étaient quand même allés assez loin en considérant qu'ils étaient totalement hors marché. Et donc que finalement, toutes les règles de la concurrence... aucune des règles de la concurrence, plutôt, ne devait s'appliquer à eux. Interdiction de la publicité, interdiction à une époque qui n'est pas si lointaine de pouvoir recouvrer de manière forcée leurs honoraires, etc., etc. Des mesures qui les mettaient totalement en dehors du fonctionnement du marché. Et si on reprend donc l'historique de ce mouvement de dérégulation qui commence... On en parlait tout à l'heure aux États-Unis, on voit bien qu'un certain nombre d'éléments sont des éléments qui, du marché qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'accès au droit. Et l'exemple le plus significatif, c'est probablement celui de cette affaire qui va être jugée en 1975 ou 77, 75 je crois, non 77 aux États-Unis, l'affaire Batts, devant la Cour suprême des États-Unis, et à l'occasion de laquelle on va autoriser les avocats américains à recourir à la publicité, alors que jusqu'à cette date, il leur était interdit, comme cela l'a longtemps été aux avocats français, de recourir à la publicité. Et si vous lisez cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Batts et Austin, qui sont deux avocats qui travaillent à Phoenix, Arizona, beau port de mer, ouvrent, tous les deux sont deux jeunes avocats qui ouvrent ce qui s'appelle à l'époque aux États-Unis et continue de s'appeler d'ailleurs une clinique du droit, c'est-à-dire un cabinet d'avocats qui est tourné vers le service aux plus démunis ou en tout cas à des populations dont les moyens sont limités. Et ils vont mettre en place ce cabinet, mettre en place un certain nombre de prestations qui sont destinées à ce type de clientèle. Et au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas du tout. Et ça ne marche pas du tout. Pourquoi ? Évidemment parce que personne ne sait que leur offre existe. Et ils vont faire de la publicité, sachant qu'ils violent les model rules de leur profession. Et bien entendu, ce qui doit arriver arrive. Ils sont poursuivis, ils vont être condamnés et ils vont aller jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême, qui va être confrontée au discours de notre profession, qui consiste à dire « mais la publicité est quelque chose qui manque à la dignité de l'avocat, qui est indigne des avocats, qui est indigne également de la qualité de ce que nous faisons, c'est-à-dire le droit n'est pas une marchandise, et puisque le droit n'est pas une marchandise, on ne fait pas de la publicité pour du droit comme on en fait pour des yaourts. C'est simplement quelque chose, c'est absolument impossible. La Cour suprême, dans des... non pas des attendus, parce que ce n'est pas le Cour de cassation, mais dans une réponse qui est d'une terrible méchanceté, à vrai dire, pour la profession d'avocat, va poser la question au barreau de l'Arizona, mais est-ce que par hasard, vous ne confondez pas l'éthique et l'étiquette, c'est-à-dire que finalement, est-ce que toutes ces règles dont vous faites état ne sont pas là parce que vous vous référez à un passé ancien et dans lequel il n'était pas question de se mélanger avec des marchands, mais est-ce que vous connaissez un meilleur moyen que la publicité pour permettre à des personnes qui n'ont pas accès à des avocats de connaître l'offre qui existe et de choisir leur avocat? Donc, oui, le droit n'est pas une marchandise, mais non, on ne peut pas, au nom de cette simple affirmation, prétendre être totalement exclu du marché. Il y a probablement des dispositifs qui doivent être pris en considération pour nous permettre de répondre aux exigences du marché du droit.
Alors, quels sont les dispositifs actuellement envisagés, en particulier au niveau européen, puisque c'est celui qui s'impose à nous ?
Alors, pour l'Europe, la messe est dite depuis un certain temps, depuis, à vrai dire, que M. Mario Monti a été commissaire à la concurrence et qu'il a fait faire en 2004 un rapport par un institut de Vienne au résultat duquel il était constaté que plus une profession était réglementée, plus ses tarifs étaient élevés, plus elle était riche et moins elle remplissait finalement son devoir social. C'est en Europe le premier rapport qui portait sur cette question, et il y en a maintenant une demi-douzaine du même type. Ils sont toujours établis un petit peu de la même façon, ils sont éminemment discutables sur le plan des méthodes et sur le plan scientifique, mais il n'empêche que c'est l'inspiration de la Commission européenne. Et nous savons que l'un des résultats de ce rapport de 2004, ce fut la directive service de 2006. Et la directive service de 2006, elle prévoit pour l'ensemble des professions qui sont dans son domaine, et une fois encore, son domaine est extrêmement vaste, elle prévoit une évaluation d'un certain nombre de règles qui sont les règles autour desquelles la profession d'avocat, mais pas simplement la profession d'avocat, est construite. C'est-à-dire, par exemple, toutes les règles qui limitent sur le plan territorial l'activité du professionnel, est-ce que ces règles sont, pour reprendre à la fois la directive et la terminologie des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que ce sont des règles qui sont proportionnées? Est-ce que ce sont des règles qui sont conformes à l'intérêt général? Et est-ce que ce sont des règles qui sont juste suffisantes pour atteindre le but recherché, donc qui sont proportionnées? La première de ces règles, c'est celle, Madame le bâtonnier ou Madame la bâtonnière, pardon, qui vous vaut d'être bâtonnière de Bordeaux, avec un ressort qui s'interrompt à quelques kilomètres de Libourne, c'est la répartition territoriale des avocats sur le territoire français. Il y a 160 barreaux avec des avocats dont certaines des activités sont limitées territorialement. Et la question qui est posée par la directive service et qui est aujourd'hui posée par la loi Macron, c'est est-ce que ces limites territoriales sont ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt du consommateur, pas dans l'intérêt, bien sûr, des avocats. Et c'est ça qui est difficile, évidemment, quand on répond à ces argumentaires, c'est de se replacer à la place du consommateur. Est-ce qu'il est dans l'intérêt du consommateur que des avocats soient limités dans leur champ d'intervention? Mais il n'y a pas que cette question. Il y a la question de savoir est-ce que il est de l'intérêt du consommateur que les cabinets d'avocats soient la propriété des avocats et ne soient pas la propriété d'une banque, d'une assurance, d'une supérette. La supérette étant citée parce qu'en Angleterre, la société Coop est propriétaire à la fois d'une chaîne de supérette, d'une chaîne de banque, d'une chaîne d'assurance et je crois que, mais je n'en suis pas sûr, d'une chaîne de pompes funèbres. Donc on offre un service complet. On rédige le testament, on enterre la personne et on règle la succession dans la même entreprise.
Du producteur au consommateur.
Du producteur au consommateur, un service complet, full service, c'est la terminologie employée habituellement. Et donc, vous avez donc cette deuxième question, vous avez la question, est-ce que, et elle rejoint un petit peu celle que je viens d'évoquer, est-ce qu'il est bon pour le consommateur que les avocats n'aient pas le droit de travailler avec d'autres professionnels? Pourquoi est-ce que des avocats et des médecins ne travailleraient pas ensemble? Parce que chaque fois qu'il y a une faute médicale, eh bien, on soignerait le patient et ensuite on poursuivrait le médecin responsable de l'erreur médicale. Et vous pouvez multiplier, bien sûr, les possibilités à peu près à l'infini, puisque de toutes les façons, la seule chose qui doit vous arrêter, c'est est-ce que c'est conforme à l'intérêt général, etc. etc. Et puis la dernière question, qui ne nous a pas encore été posée, mais qui le sera au cours des années qui viennent, c'est finalement, est-ce que ça sert à quelque chose que l'on réserve à une profession comme les avocats le droit de faire du droit, ou est-ce que finalement, ça serait pas mieux pour un certain nombre de personnes que tout le monde ait le droit de faire du droit?
Alors là, on va tout de suite aborder une question imminente, parce que certains ne se posent déjà même plus la question. Est-ce que nous pourrions aborder cet aspect important dans votre livre qui établit à la fois un lien mais aussi une différence entre ce qu'on appelle les innovations, ce qu'on appelle la transformation et éventuellement des réformes, notamment via le prisme du développement de l'Internet, de toutes ces procédures de communication. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Pas deux mots, voire autant que vous voulez.
Alors, tout le monde judiciaire est construit sur la tradition, la dictature des morts sur les vivants. Donc la tradition et le respect de règles bien établies, anciennes, et qui ne sont pas remises en cause simplement parce qu'elles sont là depuis longtemps. Je ne sais plus dans quel ouvrage je lisais enfin une réflexion sur un de ces tableaux qui existe encore dans nos palais de justice, qui représente une rentrée du tribunal au début du 19e siècle. Et vous avez toutes les hautes autorités religieuses, militaires, etc. Tout le monde est là. Tout le monde a disparu deux siècles plus tard, sauf les avocats et les magistrats qui sont toujours là, dans la même tenue. Tous les autres ont changé, sauf le monde judiciaire. Le monde judiciaire, c'est probablement le plus conservateur qui soit par nature, ne serait-ce que parce que nous avons l'habitude de nous référer à la loi, donc des textes sacrés, et à la jurisprudence, c'est-à-dire des précédents. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment construits ou formés pour regarder vers l'avenir. Nous sommes au contraire formés pour regarder vers le précédent et pour y trouver la solution aux problèmes d'aujourd'hui, ce qui, une fois encore, ne nous met pas en position d'être formidablement innovants. Et nous voilà confrontés au phénomène de l'innovation, ce phénomène qui surgit des technologies de l'information, qui permettent de répondre à des questions qui, jusqu'à présent, ne se posaient pas. Et nous voyons apparaître sur Internet un certain nombre de prestataires de services qui, eux, considèrent qu'ils sont en présence d'un marché et qui viennent proposer, grâce à des systèmes automatisés, des contrats rédigés en ligne, des lettres rédigées en ligne, etc., à des prix qui sont des prix industriels, puisqu'ils ont mis en place non pas des solution shops, mais des chaînes de valeur, des véritables industries, et vous avez des prestations juridiques dont le prix de départ commence à 2,50 €, ce qui, il faut bien le reconnaître, est à peu près impossible pour n'importe quel cabinet d'avocats. Et donc, alors que nous avions une offre juridique qui était unique, car tous les cabinets d'avocats réalisaient leurs prestations de la même façon, nous voyons surgir à côté de nous des prestataires nouveaux qui viennent présenter des offres qui sont des offres qui répondent à une logique totalement différente et qui correspondent tout à fait à ce que nous décrivent les théoriciens de l'innovation, c'est-à-dire que sur n'importe quel marché, vous avez des professionnels organisés selon ce qu'on appelle la solution shop, mais vous avez aussi des chaînes de valeur et puis vous avez même des places de marché. Vous savez bien qu'aujourd'hui, sur Internet, parmi les plus belles success stories, ce sont des places de marché. Et on peut penser par exemple à la plateforme mise en place par Apple. Lorsque Apple met en place cette plateforme, elle se contente de créer une place de marché. Tout le monde vient vendre ses applications sur la place de marché et c'est celui qui tient la place de marché qui dégage la valeur. Et de la même façon, vous savez que par exemple dans un domaine comme l'hôtellerie, deux ou trois grands sites mondiaux sont devenus des places de marché qui permettent aux hôteliers et à leurs clients de se rencontrer plus facilement. Et ce sont ces places de marché qui captent aujourd'hui la valeur. Et donc, voilà une profession qui était organisée selon un schéma unique qui était celui de la solution shop, avec ce que ça représente comme qualité, bien sûr, parce que vous êtes dans la recherche d'une prestation individualisée par quelqu'un qui est hautement qualifié. Et à côté de cela, vous avez l'apparition de nouveaux modèles qui proposent tout à fait autre chose, mais qui répondent, et c'est là toute la problématique, mais qui répondent à des besoins qui sont des besoins insatisfaits par le premier modèle. Et jusqu'à présent, nous sommes dans un système qui repose sur l'interdiction à ces nouveaux prestataires de réaliser des prestations, parce que précisément, on a toujours considéré qu'il était absolument indispensable que les prestations soient réalisées dans des conditions de très haute sécurité. Mais ce système, il commence à être mis en cause à partir du moment où cette prétendue sécurité n'aboutit, ou aboutit en tout cas, au fait de rejeter 50, 60, 70% parfois de la population en dehors de l'accès au droit. Et donc, le grand problème qui est aujourd'hui celui de la profession d'avocat, c'est de savoir si elle va être capable de faire face à ces besoins de façon à conserver ses activités réservées, parce que sinon, que voulez-vous répondre à cet argument qu'on trouve notamment sous la plume de Stephens, qui est un des dérégulateurs anglais? On a parfois l'impression chez les avocats que les avocats préfèrent que les gens n'aient pas accès au droit plutôt qu'ils n'y aient pas accès dans des conditions de qualité absolument parfaite. Et c'est évidemment toute la problématique qui se pose aujourd'hui.
Alors, l'autre question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on ne présenterait pas le droit comme étant contenant à la fois des processus simples et des processus peut-être plus complexes, avec une présentation du droit simple qui pourrait être traitée par des gens qui ne sont pas exactement des juristes, et est-ce que les avocats en particulier, pour ne parler que d'eux, devraient davantage se consacrer à ce qui est plus complexe, plus ardu, je dirais plus technique, plus scientifique. Vers quelle évolution allons-nous ?
Alors, je pense qu'effectivement, une des premières réactions, c'est de se dire effectivement, bon, c'est pas très compliqué. Il faut distinguer le droit simple et le droit compliqué. Et donc, le droit simple, tout le monde doit pouvoir le faire, et le droit compliqué, seuls les avocats vont pouvoir le réaliser. Alors, plusieurs remarques. D'abord, par rapport à un effort de 20 ans sur le plan de la jurisprudence, c'est un retour en arrière extraordinaire, car ce n'est que vers 2009 à peu près qu'on a enfin obtenu de la Cour de cassation qu'elle vienne dire le droit, c'est le droit, et il n'y a pas de droit simple et de droit compliqué. Et d'ailleurs, dire qu'il y a un droit simple et un droit compliqué est relativement peu cohérent, parce qu'en réalité, il y a des droits simples pour certains, ils seront compliqués pour d'autres. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. C'est pareil, évidemment, du côté du professionnel ou du consommateur. Certaines choses sont simples, certaines choses sont compliquées. Et pour revenir sur des enquêtes, là aussi, réalisées aux États-Unis, sur des populations qui sont de revenus faibles ou moyens, eh bien, lorsque vous posez à ce panel de personnes la question « Est-ce que vous avez eu un problème juridique l'année dernière ?», vous avez dans ce panel 94% des personnes qui répondent « Non, je n'ai pas eu de problème juridique, ni simple, ni compliqué, je n'ai pas eu de problème juridique. » Et quand vous reposez la question « Oui, mais est-ce que vous avez eu un problème avec votre employeur ? Est-ce que vous avez eu un problème avec votre banquier ? Est-ce que vous avez eu un problème avec votre propriétaire ?» Les mêmes, à 75%, répondent « Ah oui, ça, j'ai eu un problème. » Voilà des gens qui ne sont même pas capables de savoir qu'ils sont en présence d'un problème de droit, leur faire dire que c'est un problème simple ou un problème compliqué, et déjà très largement au-delà de leur horizon. Donc, la distinction du simple et du compliqué, qui paraît si évidente, n'est en réalité pas si facile à mettre en œuvre, parce que chaque personne aura une vision différente de ce qui est simple et ce qui est compliqué. Et puis, il y a également une vraie problématique par rapport aux prévisions ou aux prophéties des théoriciens de l'innovation qui vous disent, mais sur n'importe quel marché, les innovateurs rentre toujours par le bas. Il rentre par le bas parce que précisément c'est la partie du marché qui n'est pas satisfaite par les entreprises en place, parce que les entreprises en place, elles ont tendance à s'intéresser à la clientèle la plus solvable et donc au cœur du marché, et à laisser de côté ce qui est le moins rentable. Et donc, les innovateurs rentrent par cette partie du marché. Mais une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, grâce au progrès technologique, parce que le progrès technologique aujourd'hui est une fois encore, une des données les plus importantes. On prévoit que d'ici la fin de la décennie, il y aura suffisamment d'intelligence embarquée dans un ordinateur courant pour être en concurrence, pour avoir la même capacité de calcul qu'un être humain, ce qui est déjà extraordinaire. Mais on prévoit aussi que d'ici 2050, dans n'importe quel ordinateur, il y aura la capacité de calcul de l'humanité tout entière. Et donc, on imagine bien que ces systèmes qui aujourd'hui sont relativement peu performants vont continuer à devenir de plus en plus performants. Et donc, prétendre dire ben, « je laisse de côté le simple, le pas compliqué à tous ceux qui peuvent le faire avec des systèmes informatisés », c'est prendre le risque de voir progressivement, en réalité, le marché basculer comme il a pu le faire dans d'autres domaines, au profit des nouveaux entrants. Et Christiansen, dans son ouvrage The Innovator Dilemma, donne l'exemple de la sidérurgie, où on a vu rentrer sur le marché de la sidérurgie des nouveaux entrants qui réalisaient uniquement les prestations de base et représentant très peu sur le marché, et qui progressivement, en améliorant leur process, ont finalement fait disparaître purement et simplement la totalité des sidérurgistes, sauf un ou deux dans le monde, qui existaient encore il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a un très grand danger à laisser des innovateurs rentrer sur un marché, à leur laisser le simple en espérant qu'ils s'en contenteront. Et puis, et c'est la dernière raison, il me semble que précisément la vocation des avocats et des professions juridiques en général, c'est de répondre à la totalité des besoins, c'est de fournir à tous cet accès au droit. Et donc, pour ces trois raisons, il me semble qu'il ne faut pas que la profession d'avocat abandonne ce marché et abandonne cette idée qu'elle doit répondre aux besoins de la totalité de nos concitoyens.
Nous avons, je pense, quand même une part de responsabilité dans la mesure où celles et ceux dont nous sommes, d'ailleurs, n'identifient même pas la problématique juridique, enfin, une partie de la problématique juridique, du problème qu'ils peuvent rencontrer. Alors, comment y a-t-il un devoir pour les avocats de communiquer sur cet aspect, peut-être sur d'autres d'ailleurs, hein, ou par rapport à d'autres? Comment peut-on indiquer aux gens que, sans les faire tomber, je dirais, dans une angoisse de voir un problème juridique partout, que pourrions-nous faire, nous, les avocats?
Alors, il y a bien sûr ce que font et ce que pourraient faire de plus les ordres, mais il est vrai qu'ils le font déjà, c'est-à-dire un certain nombre d'initiatives qui existent ou qui peuvent être augmentées pour assurer cette présence juridique. Il y a des initiatives qui sont prises, par exemple. Nous avons tendance souvent à considérer le problème juridique uniquement sous cet angle juridique, mais la présence des avocats à côté, cette fois-ci, d'autres professionnels. Par exemple, il y a un modèle qui a l'air de se mettre en place à Lille, où les avocats sont aux côtés d'un certain nombre d'associations pour les aider à régler les problèmes de logement. Et donc, face à des populations qui ont des problèmes de logement, le problème va être abordé non pas simplement sous l'angle juridique, est-ce que vous pouvez être expulsé, est-ce que ceci, etc. Mais il va être étudié également sous l'angle du relogement de la personne par des services sociaux, sous l'angle de l'obtention d'aide, etc. Et donc, la prestation juridique va être englobée dans différentes aides, ou en tout cas dans une vision beaucoup plus globale de la personne et de ses besoins. Et donc, on évite cette difficulté qu'on rencontrait tout à l'heure de ces individus ou de ces personnes qui ne sont même pas capables de formaliser le problème juridique. Ils vont probablement aller voir un service social parce qu'ils ont un problème de logement, et à cette occasion-là, on va pouvoir détecter le problème juridique s'il existe. Mmh. Peut-être que nous n'aurons pas de solution juridique, peut-être qu'il n'y aura qu'une solution sociale, mais en tout cas, le fait de se raccrocher à des services qui existent ou à des initiatives qui existent peut permettre de rapprocher le droit des personnes qui en ont besoin. Et puis, il y a des solutions qui sont des solutions de cabinet. Des solutions d'ailleurs extraordinairement simples. Et il y a un exemple qui a beaucoup marqué, je crois, et dont tous les avocats ont maintenant entendu parler depuis quelques mois. C'est l'exemple de ce cabinet d'avocats parisien qui s'est installé dans le 15e arrondissement et qui, tout bêtement, a ouvert une vitrine sur la rue. Et 2 ans après, ce cabinet qui a ouvert une vitrine sur la rue, de quoi est-ce qu'il s'aperçoit ? Eh bien, que plus de 50% de ses clients sont des gens qui jamais n'étaient rentrés dans un cabinet d'avocats. Et il s'aperçoit également que plus de 50% de ses clients habitent dans un rayon de 400 mètres autour du cabinet. Donc, effectivement, il y a une demande latente qui existe et qui ne demande qu'à s'exprimer si les avocats font évoluer, et parfois de façon relativement simple, leur modèle. Plutôt que à Paris, un cabinet installé au 5e étage d'un immeuble haussmannien et dans lequel on se rend et on circule dans des couloirs avec des moquettes épaisses comme ça, etc. Donc, tout bêtement, le modèle d'un cabinet ouvert sur la rue et qui permet un accès plus facile et plus rassurant pour le client. Il y a toutes sortes d'innovations qui sont concevables. La grande préoccupation de la profession, c'est de créer des réflexes d'innovation, là où précisément notre profession avait l'habitude de s'appuyer sur des traditions et sur le poids du passé.
Merci, Monsieur Bâtonnier. Alors, je crois que nous allons retenir cette leçon, et c'est d'ailleurs le sens aussi de votre présentation de votre ouvrage. Merci, Thierry. On va clore le déballage. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci.